Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30, temps universel du vendredi 3 août 2018. Abdou Rahman Dia, la présentation, voici les titres. L'opposant congolais Moïse Katumbi tente de rentrer en RDC, mais son cortège a été bloqué à la frontière zambienne.
Alors ils vont l'arrêter sur quelle base? C'est tout simplement la trouille, parce qu'ils ont peur que Moïse Katumbi ne vienne poser sa candidature.
Au Mali, au lendemain de l'annonce des résultats de la présidentielle, la campagne pour le second tour est lancée sur fond de contestation des résultats. L'opposition zimbabwéenne rejette les résultats de l'élection présidentielle. Le président sortant, Emmerson Mnangagwa, se défend et estime que sa victoire est légitime. Moscou dénonce les nouvelles accusations d'ingérence portées par les services de renseignement américains. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. L'opposant congolais en exil Moïse Katumbi a été bloqué à la frontière entre la RDC et la Zambie. Il voulait rallier son fief de Lubumbashi par la route via la Zambie après que sa demande d'autorisation d'atterrir a été refusée. Il est poursuivi par la justice sur plusieurs affaires, mais il dénonce une mascarade politique des autorités. Narval Mabila était à la frontière zambienne et voici son reportage.
Le retour de Moïse Katumbi annoncé ce vendredi, un rendez-vous manqué. Tôt le matin, la ville de Lubumbashi est quadrillée par la police. Plusieurs checkpoints sont placés sur la route qui mène vers l'aéroport international de Lalouano, où son avion devait atterrir à 9h heure locale. Difficile d'y accéder, pas d'autorisation d'atterrissage. La population qui attendait Moïse Katumbi et chantait son retour sont dispersées à coups de gaz lacrymogène au niveau du quartier express et du stade TP Mazembe dans la commune de Kamalondo. Deuxième rendez-vous à la frontière entre la Zambie et l'RDC, à Kasumbi Malessa, où il est arrivé en début d'après-midi, où des centaines de Congolais ont traversé la frontière pour l'accueillir. Moïse Katumbi entre dans les bureaux de l'immigration zambienne, où il y est resté pendant 4 heures durant. Sans autorisation, il est obligé de rebourser chemin, direction vers Ndola. Entre-temps, il y a eu des échauffourées entre la population et la police, crépitement des balles, coups de gaz lacrymogènes, barricades, des blessés sont à dénombrer. Dans cette lutte, le pire est à craindre entre élections annoncées et démocratie espérée. De retour de Kasumbalesa, Narval Mabila pour VOA Afrique.
Et ce matin, notre correspondant à Lubumbashi, Narval Mabila, a recueilli la réaction d'un des proches de Moïse Katumbi, le coordonnateur régional de la plateforme électorale Ensemble pour le changement, Kinguwa Kumwaza, estime que le pouvoir a peur d'affronter Moïse Katumbi aux prochaines élections.
Sur quelle base est-ce qu'ils vont l'arrêter? Parce que tous les dossiers de toutes les fausses accusations, tous les dossiers sont transférés à la Cour de cassation. Alors ils vont l'arrêter sur quelle base? C'est tout simplement la trouille, parce qu'ils ont peur que Moïse Katumbi ne vienne déposer son dossier, ne vienne poser sa candidature, ce qui est prévu. Alors leurs chefs sont en train de trembler à cause de ça, parce qu'ils savent que personne ne pourra faire face aux élections à Katumbi ici, au Katanga.
C'était Kinguwa Kumwaza, coordonnateur régional de la plateforme électorale Ensemble pour le changement. Les autorités congolaises donnent un nouveau bilan de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est du pays. Au moins 37 cas, dont 21 décès, ont été enregistrés dans la province du Nord Kivu, où une épidémie de la fièvre hémorragique a été déclarée le 1er août après celle vaincue dans l'Équateur à l'ouest. Au Mali, dans une déclaration faite à son état-major de campagne, le candidat Soumaïla Cissé rejette les résultats de la présidentielle proclamée hier soir par le ministère de l'administration territoriale. Il dénonce des fraudes massives et des irrégularités qui ont entaché le vote, selon lui. Il appelle à la création d'un vaste front pour le Mali. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, lui, appelle ses partisans à resserrer leur rang pour la victoire du second tour. Kassim Traoré.
À la suite de la proclamation des résultats provisoires du scrutin du 29 juillet dernier, une foule de militants était présente pour écouter le leader de l'opposition, Soumaïla Cissé, qui rejette les résultats provisoires proclamés par l'administration territoriale, alors qu'il est arrivé deuxième avec 17%.
Ces résultats ne reflètent pas les votes des Maliennes et des... Ils ne sont ni sincères ni crédibles. Ce sont des résultats de la fraude. d'un bourrage honteux des urnes en faveur du président de la République sortant. Pour la première fois dans l'histoire de la démocratie malienne, un président sortant est contraint à un second tour.
Le président Ibeka, arrivé en première position avec 41%, s'est adressé à ses partisans. Il leur a demandé de redoubler d'efforts car la victoire est si proche. Ibeka a tendu sa main à tous les autres candidats qui ne seront pas au second tour. C'est ainsi que la candidate Kante Djeneba Ndiaye a répondu à l'appel du président Ibeka. Elle déclare qu'elle soutiendra la candidature de Ibrahim Boubacar Keïta au deuxième tour prévu le 12 août prochain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restant sur le chapitre des élections, l'opposant zimbabwéen Nelson Chamisa rejette la victoire au premier tour du président Emmerson Mnangagwa. Ce dernier appelle à la paix et à l'unité pour, dit-il, construire ensemble un Zimbabwe nouveau pour tous. Les violences post-électorales ont fait 6 morts dans le pays. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Nelson Chamisa accuse la commission électorale d'avoir ignoré les preuves de fraude présentées par son parti. « Nous avons gagné », a martelé le candidat du mouvement pour le changement démocratique qui a déclaré une journée de deuil pour la démocratie. L'opposant s'exprimait peu après la dispersion par la police de journalistes rassemblés pour une conférence de presse qu'il avait convoquée. Le président Mnangagwa a de son côté affirmé avoir gagné en toute transparence et n'avoir rien à cacher. Il a aussi critiqué la violente intervention des policiers contre les journalistes rassemblés par son principal adversaire. « Il n'y a pas de place pour de tels actes dans notre société », a déclaré le chef de l'État zimbabwéen qui a appelé à l'ouverture urgente d'une enquête au sujet de ces violences policières. Face aux allégations de fraude, un réseau zimbabwéen d'observateurs a exhorté la commission électorale à publier sur son site internet les résultats par bureau de vote de la présidentielle de lundi.
Au Nigeria, 21 personnes, dont 4 enfants, ont perdu la vie dans l'état de Sokoto, dans le nord du pays, lorsque leur embarcation a chaviré. Ces personnes tentaient de regagner leur village après en avoir été chassées par des groupes armés il y a quelques jours. La Russie a assuré que sa présence militaire en Centrafrique ne visait qu'à former les forces locales sans participer au combat. Une réaction qui fait suite à l'assassinat de 3 journalistes russes qui enquêtaient sur la présence d'une société militaire privée russe dans ce pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plus de 1500 réfugiés et migrants ont perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée vers l'Europe au cours des 7 premiers mois de l'année, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Environ 60 000 migrants ont traversé la Méditerranée depuis le début de l'année, soit 50% du nombre enregistré sur la même période l'an dernier. La Russie a qualifié d'hystérie qui ridiculise les États-Unis les accusations d'ingérence russe dans le processus électoral américain, alors que les services de renseignement ont accusé Moscou de continuer à interférer dans la vie politique américaine. Nathalie Barche.
Non seulement cette hystérie qui dure depuis 2 ans autour de la prétendue ingérence russe qui n'a jamais eu lieu s'appelle les relations bilatérales, mais elle ridiculise tout le système politique américain, a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Marga Zakharova, lors d'une conférence de presse. Cette déclaration intervient alors que des hauts responsables américains ont accusé la Russie hier de continuer ses tentatives pour affaiblir et diviser les États-Unis. « La menace est réelle, elle continue et nous faisons tout notre possible pour avoir des élections en lesquelles les Américains puissent avoir confiance », avait déclaré le chef des services de renseignement, Dan Coats, à 3 mois du scrutin parlementaire de mi-mandat. L'ingérence présumée de la Russie à la présidentielle de 2016 fait l'objet d'une enquête, qualifiée de chasse aux sorcières par Donald Trump, tandis que Moscou a fermement rejeté ces accusations à maintes reprises.
Les sanctions américaines contre des ministres turcs sont la preuve de la grande détermination des États-Unis à obtenir la libération du pasteur Andrew Brunson, c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, avant de rencontrer son homologue turc à Singapour. La rencontre entre les deux hommes s'est déroulée en marge d'un forum régional. Le gouvernement turc a menacé de prendre des mesures de rétorsion. Le département du Trésor américain a appelé de nouvelles sanctions contre une banque russe accusée d'avoir facilité une transaction importante d'un banquier nord-coréen, lui-même déjà visé par des sanctions américaines. Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a indiqué dans un communiqué que les États-Unis continueraient d'appliquer les sanctions américaines et onusiennes pour fermer les flux de revenus illégaux vers la Corée du Nord. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique à présent, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manelakiza.
Le gouvernement gabonais veut réduire la masse salariale pour atteindre un objectif global d'économie de 70 milliards de francs CFA d'ici la fin de l'année. Libreville a annoncé avoir démasqué en juillet plus de 6 000 fonctionnaires fictifs. La présidence djiboutienne a rejeté la décision de la Cour internationale d'arbitrage de Londres qui lui a donné tort dans son différend avec Dubaï sur le terminal de containers de Doralé. La Cour a déclaré illégale la saisie par le gouvernement de Djibouti de ce terminal et confirmé la validité de l'accord de concession et son caractère contraignant. Fin février, Djibouti avait résilié le contrat de concession du terminal de Doralé attribué à Dubai Ports World, DP World, estimant que ce contrat contrevenait à la souveraineté nationale du pays. La Chine s'est dite prête à imposer de nouveaux droits de douane sur des importations de biens américains d'une valeur de 60 milliards de dollars. Il s'agit de représailles adoptées en réaction à la récente menace de la Maison-Blanche de relever de 10% à 25% les tarifs douaniers sur 200 milliards de dollars d'importations en provenance de Chine. Par ailleurs, le déficit commercial des États-Unis s'est nettement creusé en juin sous l'effet notamment d'une baisse des exportations de voitures et d'avions et d'une hausse des importations de préparations pharmaceutiques et de produits pétroliers. Les exportations dans le secteur des boissons et de l'alimentaire ont également baissé.
À présent, la page des sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonsoir.
Bonsoir, Abdourahman Dia.
En football, un président de club sanctionné en Côte d'Ivoire.
Oui, le président du Stella Club d'Adjamé, deuxième division ivoirienne, Salif Big Togo, a été suspendu 2 ans de toute activité relative au football. C'est ce qu'a annoncé la Fédération ivoirienne de football. Salif Big Togo avait le 9 juillet affirmé qu'une somme de 3,8 milliards de francs CFA a été sortie des caisses de la FIFA sans justificatif et qu'il s'agissait d'un blanchiment d'argent, réfutant ainsi les justifications données par le vice-président de la FIFA, Sori Diabaté, lors d'une assemblée générale tenue le 23 juin.
Ahmed Moussa signe au club saoudien d'Al-Nassr.
Oui, il avait fait sensation au dernier mondial. La star du football nigérien, Ahmed Moussa, champion d'Afrique des Nations en 2013, a quitté le club anglais de Leicester, où il n'était jamais parvenu à s'imposer et s'est engagé pour 4 ans en Arabie saoudite avec Al-Nassr. Al-Nassr, 3e du championnat d'Arabie saoudite lors de la dernière saison, n'a pas dévoilé le montant de la transaction.
On parle de chaos dans l'organisation des championnats africains d'athlétisme au Nigeria.
Oui, athlètes bloqués dans les aéroports, problèmes de visa, infrastructures inadaptées. Le plus grand chaos règne dans l'organisation des championnats africains d'athlétisme prévus du 1er au 5 août à Asaba, dans le sud-est du Nigeria, scandalisant la toile et les équipes participantes. Des photos des dizaines d'athlètes africains dormant sur leurs bagages dans des aéroports d'Abuja ou de Lagos, tantôt parce qu'ils n'arrivaient pas à obtenir leur visa, tantôt parce qu'il n'y avait pas assez d'avions pour rallier Asaba, ont fait le tour des réseaux sociaux depuis lundi.
Allemagne aux îles absolument pas victime de racisme au sein de la Mannschaft, selon Manuel Neuer.
Le capitaine de l'Allemagne, Neuer, a estimé que Mesut Özil, qui a claqué la porte de la Mannschaft en se disant victime de racisme, n'avait absolument pas été discriminé au sein de la sélection. On a beaucoup parlé des propos d'Özil et on a beaucoup écrit dessus. C'est évidemment un sujet qui a été très pénible pour ceux qui ont tout lu, a déclaré le portier du Bayern jeudi soir en marge d'un camp d'entraînement du Bayern Munich, selon des propos rapportés vendredi par la presse allemande.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie et on passe au dossier du jour. L'opposant congolais Moïse Katumbi tentait de rentrer dans son pays en provenance de son exil en Afrique du Sud. Il se trouvait à la mi-journée à quelques mètres de son pays natal. Monsieur Katumbi veut déposer sa candidature à la présidentielle du 23 décembre avant la date butoir du 8 août, mais pour le moment, il était toujours bloqué en Zambie. Et pourtant, les autorités ont facilité le retour de Jean-Pierre Bemba après son acquittement par la CPI. Pourquoi Kinshasa se montre inflexible avec Katumbi? Pour analyse, Eric Manelakiza a joint à Bruxelles Henri-Désiré Zouzi, les consultants diplomatiques.
D'abord, c'est une inflexibilité qui est incompréhensible. Dès lors que ce même gouvernement, les autorités estiment qu'il y a un mandat d'arrêt contre Moïse Katumbi, le meilleur moyen d'exécuter ce mandat d'arrêt, c'est de le laisser tout simplement rentrer comme il le souhaite. Et à ce moment-là, eh bien, il se mettra à la disposition de la justice. Or, ce à quoi on a assisté aujourd'hui notamment, eh bien, c'est un spectacle pathétique qui donne une image extrêmement déplorable de la manière dont précisément ce processus a été engagé depuis le début par les autorités congolaises, et cela n'augure absolument rien de bon en termes de décrispation politique. Nul, en tout cas, n'intéresse qu'il y ait des violences. Je pense qu'il y a suffisamment de bon sens pour que l'on puisse faire en sorte que les procédures soient respectées. Toute la difficulté consistera en fait à trouver un moyen d'apaiser les tensions de manière à ce que le processus électoral ne déraille pas à cause de cet antagonisme entre Moïse Katumbi et le régime de Kinshasa.
Pourquoi Kinshasa aurait peur de M. Katumbi? Est-ce qu'il pèse énormément?
Je ne me prononcerai pas sur sa popularité, je préférerais plutôt me prononcer sur sa capacité financière à mener une campagne présidentielle sur toute l'étendue du territoire. Et de ce point de vue-là, force est de remarquer, en tout cas de reconnaître, qu'il est probablement le seul à l'heure actuelle au sein de l'opposition à pouvoir mettre les moyens suffisants pour mener campagne. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a travaillé pendant pratiquement 10 ans avec le président Kabila en sa qualité de gouverneur de la province du Katanga. Donc c'est quelqu'un qui forcément est au courant de beaucoup de choses. Certes, sa gestion peut donner lieu à un droit ou à un devoir d'inventaire, mais c'est l'adversaire le plus dangereux aux yeux du pouvoir de Kinshasa.
Mais Jean-Pierre Bemba, il a de l'argent aussi.
Écoutez, je ne pourrais pas me prononcer à sa place, mais je peux par ailleurs m'avancer en disant que les 10 années qu'il a passées à la CPI n'ont pas forcément été une bonne chose pour lui, d'autant qu'on a vu arriver politiquement une nouvelle offre politique, de nouvelles dynamiques se sont mises en place. Il est revenu avec le succès que l'on connaît. Il doit donc reconstruire une image qui a été d'une certaine manière altérée par ce long séjour donc à la CPI. Il faudra simplement, je pense, qu'il puisse se réorganiser en conséquence pour pouvoir mener une campagne digne de ce nom, dans l'hypothèse évidemment où sa candidature serait acceptée et validée par la CENI.
Henri-Désiré Zouzi, consultant diplomatique, joint à Bruxelles.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Mali, le second tour de l'élection présidentielle opposera le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, qui a obtenu 41,42% des suffrages exprimés au premier tour, au chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, qui lui est crédité de 17,80% des voix. L'opposant a toutefois affirmé ce vendredi qu'il n'accepterait pas les résultats, qu'il a qualifié de ni sincère ni crédible. À son quartier général de campagne à Bamako, ses militants abondent dans le même sens. Écoutons Yeri Bokoum, l'un de ses partisans.
En réalité, le peuple malien s'est rabattu en fait, parce que vu les résultats qu'on a donnés, c'était pas des vrais résultats en fait. Le pays était sous chaos. Tout le monde croyait qu'il y avait déjà une crise qui était déjà lancée. Du moment où tous les activistes, les grandes associations, les leaders, les personnalités ont rejoint le camp de Soumaïla Cissé, et voir que le président Ibrahim Boubacar Keïta, il a fait 41% avec ce score, fleuve, nous on n'est pas d'accord avec ce score, donc on demande à ce qu'on récompte, on demande à ce que l'opinion nationale et internationale intervient à ce résultat, c'est des bourrages des urnes.
Voilà, un partisan de Soumaïla Cissé, Yéry Bokoum, à présent du côté du camp du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, on rejette toute accusation de fraude électorale. Écoutons Kansoutou Sidibé de la campagne d'Ibeka.
J'ai un grand respect pour M. Soumaïla Cissé, mais je pense que M. Soumaïla Cissé doit accepter la voix du peuple. Il doit accepter la voix du peuple comme tous ces candidats qui sont venus et leur demander gentiment de venir se s'allier avec le RPM et l'ADEMA et le EPM pour pouvoir travailler et construire ce pays. Le Mali n'a pas besoin d'hostilité. On est dans un pays de paix, on a toujours été un pays de paix. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est dans le Nord. Et pourquoi ce problème est là? Ce n'est pas Ibeka. Ibeka est venu trouver ce pays dans l'instabilité totale. S'il faut, soyons honnêtes, c'est ce que je demande à tous les partis de venir s'allier avec Ibeka pour pouvoir finir tous ces problèmes-là. Parce que sincèrement, on ne peut pas continuer comme ça.
C'était Kansoutou Sidibé au micro de Jacques Aristide à Bamako.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Dans un rapport confidentiel, l'Union européenne s'alarme de la situation politique et sociale en Côte d'Ivoire avant la prochaine élection présidentielle de 2020. Et le document n'est pas tendre envers Abidjan. Dérive autoritaire du pouvoir, corruption, flagrante inégalité sociale. Bagassi Koura a joint à Abidjan l'analyste politique André Silver Conan. Pour lui, ce rapport qui tombe au mauvais moment pour le régime n'est pas surprenant.
L'Union européenne n'a fait que traduire enfin une situation que vivent les Ivoiriens depuis un bon bout de temps, que nous essayons justement de façon certes timide, que nous essayons de relever et qui malheureusement ne rencontrent pas, si vous voulez, la bonne oreille du pouvoir.
Le rapport parle de la situation économique et du niveau de pauvreté qui reste quand même assez élevé malgré la croissance.
Oui, si vous voulez, c'est l'un des paradoxes. Et l'Union européenne a tellement bien résumé ce constat par le fait que c'est une façade rassurante, mais les signaux incitent à la vigilance. Voilà, c'est la méthode Ouattara qui est en train de s'effriter. C'est une méthode qui consiste jusque-là à présenter des apparats, à être dans l'apparence. On fait des réformes structurelles en direction de certains bailleurs de fonds, mais ces réformes structurelles ne sont pas suivies de résultats probants pour la population.
On a vu quand même un taux de croissance assez fort. Qu'est-ce qui n'a pas marché et est-ce qu'on peut encore corriger le tir sur le plan économique?
Moi, je pense que ce sera difficile parce que c'est toute une méthode qui s'effrite et depuis un bon bout de temps, depuis plusieurs années d'ailleurs, nous, personnellement, nous essayons d'attirer l'attention des gens sur le fait que la méthode n'est pas bonne. Première chose, Alassane Ouattara a visé, si vous voulez, les données macroéconomiques. Il a voulu mettre tout au vert. C'est bien, c'est beau. Sauf que, voyez-vous, je prends l'exemple très précis, par exemple, du tribunal du commerce. On installe le tribunal du commerce pour, par exemple, pouvoir avoir accès à des programmes comme le Millennium Challenge Corporation et autres. Mais une fois qu'on a mis en place le tribunal du commerce, eh bien, il faut que les juges, les magistrats qui sont au tribunal du commerce puissent donner de bonnes décisions. Mais c'est là où le bât blesse.
Et Ouattara aussi était censé lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire. Apparemment, c'est un échec si on se fie à ce rapport.
C'est un échec total. Alors là, je peux le dire sans risque de me tromper que c'est un échec total, cuisant, palpable, révoltant à la limite. D'autant que, là encore, la méthode Ouattara a consisté à structurer la lutte contre la corruption. Première chose, on crée une brigade de lutte contre la corruption qui n'a jamais arrêté personne. On crée donc une unité de lutte contre le racket au niveau de la police. On crée une haute autorité pour la bonne gouvernance. On renforce une inspection générale de l'État. Voyez-vous, on structure la lutte contre la corruption pour montrer aux bailleurs de fonds, à la communauté internationale, que voilà ce que nous faisons pour la lutte contre la corruption. Ça encore, c'est une stratégie de façade.
C'était l'analyste politique André Silver Conan, joint à Abidjan.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes.
À la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Cheikh Thiero, à la console Sidrak Franklin. Présentation Abdourahmane Dia, ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le 9 juillet, le président érythréen Isaias Afwerki et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont décidé de résoudre les différends entre leurs deux pays en signant un accord de paix qui mettra fin à deux décennies d'hostilité. Pendant 5 ans après que l'Érythrée a obtenu par référendum son indépendance de l'Éthiopie, les deux pays ont eu des relations cordiales. Mais, en 1998, une dispute frontalière s'est muée en une vicieuse guerre qui a fait plus de 80 000 morts. Les hostilités ont cessé en l'an 2000, mais les deux pays ont maintenu un face-à-face militaire dans le territoire litigieux. En plus de mettre un terme aux hostilités de longue date, un accord de paix aurait d'importants bénéfices pour les deux nations. Un pays enclavé, l'Éthiopie pourrait accéder aux ports érythréens d'Assab et de Massawa sur la mer Rouge, sur l'une des voies maritimes les plus fréquentées de l'Asie à l'Europe en passant par le canal de Suez. Pour sa part, l'Érythrée aurait la possibilité d'améliorer son économie sévèrement mise à mal par la guerre avec l'Éthiopie et bloquée par l'impasse subséquente. C'est un pays isolé dont nombre des ressortissants ont émigré. Les États-Unis se félicitent de l'engagement du 9 juillet pour la paix et la sécurité entre l'État de l'Érythrée et la République fédérale démocratique d'Éthiopie qui met fin à 20 ans de conflit, a dit le secrétaire d'État Mike Pompeo dans une déclaration écrite. Nous félicitons le premier ministre Abiy d'Éthiopie et le président Isaias Afwerki d'Érythrée pour avoir courageusement mené leur peuple vers la paix, la prospérité et les réformes politiques. La normalisation des relations et l'adoption d'une déclaration conjointe de paix et d'amitié entre l'Érythrée et l'Éthiopie permettront à leur peuple de se concentrer sur leur aspiration à des liens politiques, économiques et sociaux plus étroits, a souligné le secrétaire d'État Pompeo. Les États-Unis sont prêts à soutenir ce processus et encouragent toutes les parties à continuer de travailler dans la transparence et la confiance dans les jours à venir. La paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée renforcera la stabilité, la sécurité et le développement dans la Corne de l'Afrique et de la mer Rouge.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.